était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur.
Noble. Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre, tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, le 102.2. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clément Perret-Jatko et Amandine Vincent. Ils viennent nous présenter la dernière création de la compagnie Collapse, Maiden Inferno, un spectacle qui vient s'insérer dans un projet plus large autour de l'Ukraine, donc Cap à l'Est. Bienvenue à vous deux. Merci pour votre présence dans les locaux de Radio Canu. Et bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci pour l'accueil.
Mais avec plaisir. Et donc, on va tout de suite s'intéresser au projet, à la création Maiden Inferno. Je vais te proposer du coup, Clément, de nous situer un petit peu cette création. De quoi ça parle ?
Eh bien, effectivement, c'est une création en cours, puisqu'elle sera créée en septembre 2019 pour le Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. Et nous, on s'est attardé sur la révolution ukrainienne, celle de 2013-2014, la révolution de Maïdan, que l'on appelle également la révolution de la dignité. Et pour cela, on s'appuie sur un texte, Maïdan Inferno, donc, qui est écrit par Neda Nejdana, une dramaturge ukrainienne, et qui est un texte traduit en français que l'on peut trouver par le biais d'une maison d'édition qui s'appelle L'Espace d'un Instant. Et c'est également la première pièce de théâtre ukrainien éditée en français. Voilà, donc on a eu l'occasion avec l'équipe de faire plusieurs voyages préparatoires en Ukraine. Et c'est un projet donc qui se situe entre France et Ukraine. Le spectacle sera donc en français pour l'occasion. Et là, en ce moment, eh bien, puisque la compagnie est lyonnaise, hein, la compagnie Collapse, eh bien, nous sommes en résidence à Lyon, plutôt juste à côté de Lyon, à Ramdam, un centre d'art. Et nous proposons une ouverture publique le 27 novembre à 20h, ce qui est l'occasion pour vous, spectateurs, de venir suivre ce travail. Alors, ce n'est pas le spectacle terminé, hein, c'est encore un travail en cours. Et là, vous allez pouvoir discuter avec nous également, et on espère que cette émission vous donnera l'envie déjà de comprendre un peu mieux les enjeux de notre travail et également de venir nous voir à ce moment-là.
Oui. Et donc, la révolution ukrainienne, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que c'est ? Parce qu'on voit un peu la confrontation qu'il peut y avoir entre l'Ukraine et, j'imagine, la Russie. Mais plus en détail, est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce conflit ?
Oui, bien sûr. C'est une révolution qui commence sur cette place, la place Maïdan, qui est la place principale de Kiev. Et il y a eu, pendant les 2-3 mois d'occupation de cette place, jusqu'à 1 million de personnes qui sont venues de toute l'Ukraine pour manifester. Elle commence suite à un refus du président Yanukovych de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Donc on peut voir qu'il y a une main, la main du Kremlin derrière cette prise de décision. Et donc la jeunesse ukrainienne manifeste son désaccord en occupant la place. Donc c'est avant tout une place également de, comment dire, une révolution culturelle, hein, voilà, sur le désir d'être ensemble, de montrer un désaccord avec le gouvernement. Et malheureusement, assez vite, ce mouvement va subir la répression. C'est ça, par des forces paramilitaires, donc les Berkouts, qui sont des forces paramilitaires directement à la solde du président.
C'est l'armée secrète du président ?
C'est pas forcément secrète, mais on va dire c'est paramilitaire. Disons, ce serait un peu l'équivalent de super CRS pour nous, mais à qui on confierait, à qui l'État confierait également des missions un peu sales, comme si vous n'avez pas payé des taxes pour la mafia, ils peuvent débarquer chez vous en pleine nuit. Enfin voilà, c'est ce genre d'opérations qui sont masquées. Hein, voilà. Et donc il y a eu cette répression, et ils sont venus sur cette place pour, j'ai envie de dire, tabasser les jeunes manifestants. Et suite à ça, il y a eu un mouvement de sympathie pour les révolutionnaires dans toute l'Ukraine. Et ça a créé un mouvement général en Ukraine. Et donc, de plus en plus de personnes sont venues prêter main forte à la jeunesse. Et c'est devenu une véritable révolution qui a duré jusqu'en février, jusqu'à la destitution du président Yanukovych à ce moment-là.
D'accord. Et les accords, du coup, ont été acceptés, les accords de l'Union européenne ?
Alors, c'est tout un... En fait, ils avaient déjà été négociés, hein, si je suis, mais c'est-à-dire qu'ils étaient, ils devaient être signés, mais le président a refusé de le faire, quoi. Hein, c'est ça, à la surprise générale. Donc, qu'est-ce qui a suivi donc, effectivement, il y avait cette volonté de beaucoup de jeunes Ukrainiens, quand même, de s'approcher de valeurs européennes, quoi. Ça, c'est évident. Malheureusement, aujourd'hui, 4 ans plus tard, quels sont les fruits qu'ont porté cette révolution ? Eh bien, le niveau de vie a été divisé quasiment par 3, parce que le cours de la monnaie locale, avant, pour 1 euro, vous devez avoir l'équivalent de 10 à 12 hryvnia. Maintenant, pour 1 euro, vous en avez 40. Donc, ça veut dire que le coût de la vie a été à peu près divisé par 3. En tout cas, le pouvoir d'achat, voilà, je cherchais ce mot. Mais malgré tout, ça a ouvert, je pense, une porte d'avenir pour la jeunesse. Effectivement, alors certains ont déchanté parce que finalement, qu'est-ce qu'apporte l'Union européenne ? Enfin bon, ça c'est des questions complexes. J'ai pas une réponse à tout ça. Mais voilà, je pense que beaucoup de personnes se sentent beaucoup plus proches de l'Europe et de ses valeurs que de la Russie. Et d'ailleurs aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre contre la Russie parce que ce qui a suivi directement la révolution du Maïdan, eh bien c'est une déclaration de guerre. La Crimée a été envahie. Et aujourd'hui, annexé par la Russie, et il y a une guerre dans le Donbass, hein, qui continue encore aujourd'hui, effectivement, dont on entend malheureusement assez peu parler, mais il y a eu entre 10 et 12 000 morts, peut-être un peu plus, hein, depuis ces 4 années de guerre. Et ça, bon, maintenant, on le devine, mais c'est une guerre qui a aussi été planifiée, évidemment, quoi. Donc la révolution de Maïdan a été le prétexte pour la déclencher. Mais revenons-en
à Maïdan Inferno,
à la pièce, voilà.
Donc, effectivement, s'inscrit dans ce contexte-là de révolution.
Oui.
Autour du coup, c'est quelque chose qui reprend textuellement le contexte où une histoire a été tissée, ou c'est peut-être plus métaphorique, concrètement. Qu'est-ce que raconte Maïdan Inferno ?
Tout à fait. Donc la pièce a été écrite pendant et juste après les événements. Elle est très documentée, donc c'est une forme de théâtre documentaire, aussi de théâtre politique également. Et donc
Neda, du coup, Neda Nejdana,
je prononce pas. Nejdana, tout à fait.
Donc qui est une autrice ukrainienne. Elle vivait à ce moment-là en Ukraine, à Kiev. Donc elle a assisté aux événements où c'est compliqué pour elle peut-être de vivre, si elle critique le gouvernement, peut-être que pour elle c'est compliqué de vivre là-bas, elle s'est un petit peu expatriée.
Non. Elle vivait effectivement à Kiev, elle vit toujours à Kiev, voilà, et puis c'est une dramaturge qui est sans doute la dramaturge principale en Ukraine, hein, qui est très renommée. Donc bon, il se fait qu'elle était à ce moment-là accueillie en résidence en France, en résidence d'écriture, voilà, la pièce s'est faite des allers-retours entre la France et l'Ukraine, sachant que c'est quelqu'un qui est totalement francophone, mais bon, elle n'était pas venue en France pour des raisons d'exil politique, hein, c'est pas du tout ça. En tout cas, effectivement, elle a pu assister aussi à certaines parties de ces événements, voilà, elle m'en a beaucoup parlé, parce que je l'ai rencontrée à plusieurs reprises depuis quasiment le moment où elle l'écrit, enfin juste un peu après, et voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire, oui, c'est de sur ce quoi elle s'est appuyée, en fait, c'est à la fois Alors effectivement, c'est de la fiction, mais ça s'appuie quand même sur des faits réels, quoi. Donc il y a un croisement entre les deux. Et on va suivre le parcours de deux personnages qui sont Anya et Oreste, donc justement deux jeunes personnes qui ont entre 18 et 22 ans, on va dire, dans ces zones-là.
Oreste est un nom assez lourd à porter, parce que théâtralement, il veut dire, il l'amène à d'autres, d'autres histoires.
Oui, 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 c'est, ce n'est pas un nom courant, effectivement, en Ukraine. Neda ne sait pas forcément pourquoi elle, il y a eu ce nom, mais effectivement, c'est pour attirer sans doute un peu ailleurs. Mais ce sont ces deux personnes donc, qui se rencontrent sur cette place, qui flirtent entre eux, qui, voilà, il y a peut-être un début de relation amoureuse, mais qui très vite sont séparées donc, par l'intervention des Berkouts, dont je parlais tout à l'heure, par cette intervention-là. Et qui se trouvent au milieu, enfin qui se font littéralement, comment on dit ça de façon, casser la gueule, on dit ça comme ça ?
Tabassé,
voilà, merci Amandine. Et donc ils se retrouvent séparés par les Berkouts. Et Anya, pendant toute la pièce, va essayer de chercher Oreste, notamment dans les hôpitaux, les centres de soins, alors les centres de soins clandestins, parce que c'était dangereux de se faire soigner dans les hôpitaux officiels.
Fiché après, ou même... emprisonnés peut-être.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ils allaient si vous faites soigner à ce moment-là, oui, c'est un moyen de.
Présent sur cette place-là à ce moment-là.
Tout
donc,
à fait.
Tu es susceptible d'être poursuivi après. Pour des fausses accusations.
Oui, oui, tout à fait. De la même manière, ça parle de ça dans la pièce. Ils repéraient les étudiants parce que quand ils allaient à l'université, ils sentaient le gaz. Et le gaz était, c'était les gaz lacrymogènes, etc. C'est ce qu'on lançait sur la place. Donc on pouvait se faire emprisonner parce qu'on sentait le gaz, quoi. Effectivement, tu voulais dire une petite chose, Amandine ?
Oui, bah, y avait le gaz et l'odeur de fumée. Parce que le feu était très présent sur la place, parce que c'est l'un des moyens qu'ils ont pour se défendre contre les Berkouts et les différentes forces armées. Et du coup, ils font des grands feux, parce que ça permet de faire un mur qui n'est pas forcément franchissable.
Oui, et la révolution a duré quand même plusieurs mois, il faisait très froid pendant cet hiver-là, donc il y a eu reconstitution de camps traditionnels cosaques, donc il y avait des gens qui vivaient en permanence sur cette place, quoi, effectivement. Et donc, cette jeune fille, Anya, va... pendant son parcours, chercher Oreste. Et elle va rencontrer toute une série d'autres personnages sur cette place. Donc la pièce va s'attarder à ça, à leur discussion, où ils vont commenter l'actualité, etc. Donc ça, c'est le premier niveau de la pièce. Il y a un second niveau sur les réseaux sociaux, où c'est toute l'organisation du Maïdan sur Facebook, Twitter, etc. Parce que ça a été très présent, notamment, c'est ce qu'on appelle l'auto-Maïdan. Donc c'est des conducteurs de voitures évidemment, qui s'organisaient pour bloquer certaines avenues de la place, aller chercher des blessés à un endroit ou les transférer d'un hôpital à l'autre, comme on disait que c'était dangereux pour eux de rester au même endroit. Et donc ça, il y a eu toute une organisation, notamment sur les réseaux sociaux, donc la pièce parle beaucoup de ça. Et il y a enfin un troisième niveau qui sont les monologues, donc où là, Anya et Oreste se rencontrent d'une façon un peu plus imagée, dans un espace. On ne sait pas très bien où, entre la vie et la mort, on va dire. Enfin, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent, s'ils sont vivants, s'ils ne le sont pas. Et c'est un moment où la pensée prend beaucoup plus de temps par le biais du monologue. Hein, c'est un processus théâtral, donc on plonge plus profondément dans la pensée de ces deux personnages. Alors, c'est un peu... effectivement, il y a une référence mythologique. Peut-être que Oreste, son nom finalement vient de là. Mais ce serait un mythe d'Orphée à l'envers, où Anya va chercher Oreste pour le sortir des enfers, quoi. Voilà, oui, tout à fait, parce que la pièce est aussi écrite. On s'en est rendu compte par le biais de mes premiers travaux de mise en espace et dans la discussion avec Neda. Elle est aussi écrite comme un mystère du Moyen-Âge. Donc, le mystère du Moyen-Âge, où l'enfer était représenté d'un côté, le paradis de l'autre, et entre les deux, toute une série d'actions qui se passaient, et le spectateur. pouvez être, aller voir ce qui se passe en enfer, ce qui se passe dans le paradis, et se faire sa propre opinion ensuite. Donc ça, c'est des formes théâtrales qui sont propres au Moyen-Âge. Et donc, cette histoire, voilà, c'est là où je vais également, entre Anya et Oreste, s'appuie sur une histoire qui a réellement eu lieu, pour le coup. Alors, c'est pas les mêmes noms des personnes, mais c'est des histoires réelles. Hein, et que l'on trouve souvent dans des post-attentats, j'ai envie de dire, où s'il y a des disparus, eh bien, on ne sait pas où ils sont. Il faut d'abord, les familles doivent faire un travail, aller à la recherche dans les hôpitaux, etc. Enfin, voilà, c'est aussi des choses pas très simples et qui sortent un peu du contexte de la Révolution et qui donnent une portée un peu plus ample, un peu plus universelle, j'ai envie de dire, à cette histoire. Mais voilà, en tout cas, la pièce commence vraiment le jour de cette première intervention des Berkout et finit en fin février, je crois que c'est le 20 février, j'ai pas la date exacte en tête, le jour où le président Yanukovych doit fuir et destituer, et la déclaration de guerre, l'annexion de la Crimée par le Kremlin. Donc voilà, c'est une pièce qui aussi se veut être assez objective, donc qui dresse les événements et qui est très documentée. Voilà, en tout cas nous, on en a appris beaucoup sur l'Ukraine.
Vous avez voyagé jusqu'à l'Ukraine du coup. Vous avez eu des séances de résidence là-bas à Kiev?
Tout à fait. Je suis en lien avec beaucoup de théâtres maintenant, et notamment il y a un partenaire principal qui est le centre de dramaturgie Lyskourbas à Kiev, c'est le nom d'un metteur en scène, Lyskourbas, des années 1920, que l'on connaît assez peu, nous, ici en France. On connaît de cette époque-là des noms comme Stanislavski, Meyerhold, qui sont plus du côté russe, effectivement. Mais on n'a pas vraiment entendu parler de Lyskourbas, qui est un des contemporains de Meyerhold, qui a une recherche assez similaire.
Juste pour rappeler, Meyerhold, c'est toute la recherche au niveau du théâtre corporel, voir vraiment détacher chaque mouvement et chaque partie du corps pour exprimer quelque chose.
Oui, c'est ça. C'est des recherches d'ordre formel, mais qui ont aussi
de biomécanique.
Voilà, ça c'est ce qu'on connaît ici, mais qui sont beaucoup plus amples parce que c'était une époque où la volonté était de faire un art total qui allait à la fois l'art du corps effectivement, mais aussi l'art de la dramaturgie, enfin qui allait convoquer les arts plastiques parce qu'il y a aussi beaucoup d'expérimentation autour des arts plastiques qui a pu faire.
Et on en reviendra car le Compagnie Nicolas c'est aussi une compagnie de marionnettes.
Oui, voilà, et bien justement, et ces gens comme Meyerhold et Lyskourbas ont aussi théorisé sur le théâtre de marionnettes à l'époque, et notamment dans cette comment le théâtre de marionnettes rentre en lien avec le théâtre d'acteurs. Et justement, donc je voulais peut-être citer un peu Lyskourbas, qui est très influencé par toutes les théories de Craig, notamment, et qui a une conception, et aussi des impressionnistes français et Cézanne, notamment, donc je cite Lyskourbas, pour sa capacité à présenter des objets sous deux angles différents qui sont parfaitement intégrés dans l'unité de la composition. Et c'est là où on en vient, au théâtre de marionnettes, effectivement. Voilà. Donc, la compagnie Collapse, oui, bon, bah, c'est vrai, nous, on aime bien ça, la marionnette. Dans notre pièce, alors, moi, je me suis inspiré des marionnettes traditionnelles ukrainiennes, qui est le vertep, qui se joue dans un castelet de deux étages, où l'enfer et le paradis sont représentés dans ce castelet. Donc, ça, on en vient à Maïdan Inferno, évidemment. Et donc, bon, alors, ma pensée a un peu évolué, donc je ne vais pas vous faire toutes les étapes parce que ça risque d'être un peu long. Mais par contre, voilà, donc là où on en est aujourd'hui, c'est que toute cette série de personnages sont représentés par des marionnettes, effectivement. Et les acteurs manipulent ces marionnettes, donnent voix aux personnages. Donc il y a trois acteurs pour sept personnages. Et également donnent voix aux réseaux sociaux par le biais du jeu d'acteurs. Et ils sont dédoublés, donc les acteurs prennent en charge les monologues que vont nous jouer les personnages Anya et Oreste. peut-être une toute dernière chose sur l'art de la marionnette en Ukraine. C'est que les formes de vertèpe ont été jouées pendant la révolution de Maïdan, sur la place Maïdan, parce qu'il y avait aussi des spectacles, et notamment, donc ça raconte principalement la naissance du Christ, et au travers des personnages représentés, donc il y a Hérode, et tout le monde voit Poutine au travers de Hérode, donc ça joue aussi beaucoup sur les saints qui sont représentés comme ça, et dont on peut voir des personnages politiques actuels au travers. Et ça, c'est des codes qui sont très très clairs en Ukraine, qui le sont sans doute un peu moins en France, parce qu'on ne connaît pas forcément ces traditions-là. Sur notre voyage en Ukraine, je propose à Amandine de nous dire quel a été son vécu, parce que tu as eu l'occasion d'y aller en juillet pour justement travailler au sein du centre Lise Courbas.
Mais tout à fait, moi je ne connaissais pas du tout l'Ukraine, c'était un pays qui m'était inconnu, la seule chose que je connaissais de l'Ukraine c'était Tchernobyl, donc c'était très petit. Et donc en juillet on est parti une dizaine de jours en Ukraine pour une résidence, et j'ai découvert Kiev, j'ai découvert le pays, j'ai découvert la culture aussi. On a eu la chance, et c'est extraordinaire pour des comédiens, de rencontrer Neda, de travailler sur le texte avec elle. Donc on a pu lui poser aussi des questions sur toutes les interrogations que nous on a en tant que Française sur cette révolution que moi je connaissais très très peu. Et donc c'était vraiment très très enrichissant de faire cette rencontre-là, de voir les lieux aussi. On a eu l'occasion à Kiev d'aller dans les différents lieux où se sont passés les différents événements. Et c'est assez impressionnant parce que quand on parle de cette place, il faut imaginer qu'elle est vraiment immense, coupée par une artère, une rue. Et il faut imaginer qu'il y a 1 million de personnes qui se retrouvent à un moment donné sur cette place, parce que les sympathisants pour cette révolution sont arrivés de tout le pays, pas uniquement de Kiev. Ils arrivent de tous les pays et viennent sur cette place qui est complètement chamboulée, parce que quand on voit des photos et qu'on la voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il faut imaginer cette place où les pavés ont été enlevés, où il y a des barricades, où il y a du feu, où il y a une scène à un endroit, parce qu'il y a des conférences qui sont données, des spectacles qui sont joués. Et ça se joue aussi sur les rues tout autour, puisqu'il y a une église, l'église Saint-Michel, qui a servi d'hôpital. Qui permettait aux personnes blessées de se rapatrier, d'être soignées là-bas, puisque comme on l'a dit, c'était extrêmement dangereux pour eux de se rendre à l'hôpital, parce qu'ils risquaient d'être enlevés par la police. Donc il y avait cette église. Il y a eu aussi sur la fin de ces événements un bâtiment qui a été incendié. Aujourd'hui, il est encore fermé, il est en train d'être rénové, donc on peut voir ce bâtiment avec ses traces du feu, et il faut imaginer que c'est un bâtiment qui a été incendié avec des personnes dedans, et la caserne de pompiers était à quelques mètres à côté, mais ils ont eu comme consigne de ne pas intervenir. Et donc c'est là que la solidarité aussi s'est créée, parce que tout le monde s'est mis en solidarité et a trouvé des moyens pour sauver ces personnes qui étaient emprisonnées. Donc il y avait des gens qui sautaient par les fenêtres, d'autres avec des draps tendus qui les réceptionnaient en bas. Enfin, voilà, on se rend compte, en tout cas en allant là-bas, de la violence de ce mouvement pour des Ukrainiens qui ont une histoire très récente, en fait. Et ça, on le sent, parce que c'est un pays qui est indépendant que depuis, je dirais, à partir de 89, après la chute du mur de Berlin.
L'effondrement de l'URSS.
Enfin, l'effondrement même de l'URSS. Et du coup, voilà, il cherche aussi son identité. Et pour eux, tout ce qui est drapeau ukrainien, toutes ces symboliques-là qui, pour nous, en France, sont rattachées à des mouvements d'extrême droite, pour eux, ce n'est pas le cas, parce qu'ils cherchent cette identité-là. Et à travers ce mouvement, moi, j'ai eu la sensation, en tout cas, qu'ils se sont rendus compte qu'ensemble, ils pouvaient faire quelque chose, parce qu'ils étaient quand même sous un gouvernement de corruption.
Oui, tout à fait.
Et c'était très compliqué pour eux. Alors, ça n'a pas tout débloqué, évidemment, parce que je pense que une révolution, c'est long et ça prend des années aussi après pour se reconstruire. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses que j'ai pu sentir et qui étaient intéressantes. Et puis, au-delà de Kiev, on a pu aussi se rendre à Odessa. Odessa, qui est une ville à l'est du pays, en bord de mer, au sud-est, et qui, elle, n'est pas très loin des zones de conflit actuelles. Et je crois, si je ne me trompe pas, qui a été bombardée... occupée, non ?
Non, pas Odessa, mais on était aussi à Mariupol.
Ah pardon, Mariupol, je me suis trompée. Alors je ne vais pas dire Odessa, je vais dire Mariupol qui est sud-est.
Voilà,
Mariupol, merci, qui elle a été directement touchée par le conflit actuel. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était très drôle, il y avait des drapeaux français de partout.
Et oui, mais on était le 14 juillet.
Et c'était le 14 juillet. Donc c'était assez déroutant pour nous de voir ce drapeau français flotter dans les rues de Mariupol.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il commémore la prise de la Bastille, quoi.
D'une prise de pouvoir du peuple.
Oui, c'est ça. Le mot d'ordre au travers de Maïdan Inferno, c'est la liberté ou la mort, qui est le même mot d'ordre qu'il y a eu pendant la Révolution française, de toute façon. Donc c'est pour eux, c'est un symbole qui est très fort, tout à fait.
Voilà, pour nous, c'était déroutant et très touchant aussi de voir ça. Et puis voilà, on a eu l'occasion, en effet, d'aller à Odessa. Donc on a eu l'occasion de s'imprégner de différentes villes, de différentes ambiances, et ça c'était vraiment très intéressant.
Et notamment l'ambiance des clubs ukrainiens, et je vous propose,
oui, entre autres,
si vous avez envie, d'écouter un des tubes qu'on peut écouter actuellement en Ukraine.
Oui, tout à fait, si vous allez dans les clubs de nuit à Kiev, vous entendrez ça.
Скорость спать не дает, мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем, музыка так орет. Скорость спать не дает, мы убитые вдвоем. Я дыхание задержу и на миг притворюсь твоей душой. И в сознание я хочу каждый миг рисовать рядом с тобой.
Губы, твои губы. Дай мне минуту, дабы выводы обдумать. Чё тут думать, надо брать. Брать тебя, брать тебя, брать тебя, брать. Губы, твои губы. Мало пополам нам будет это пудра. Чё нам будет, надо брать. Брать, надо брать, надо брать, надо брать.
В этой комнате вдвоём друг другу поём. Громче звук, стук, звон. Музыка на весь район. В этой комнате вдвоём друг другу поём. Громче звук, стук, звон. Музыка на весь район. Танцы под фонарём. Музыка так орёт. Скорость спать не даёт. Мы убитые вдвоём. Танцы под фонарём. Музыка так орёт. Скорость спать не даёт. Мы убитые вдвоём.
Ты внутри моей души. Каждый миг он на тебе. Мимо вселенная спеши. Мы словно на корабле. Иммунитет мой не руши. На пульс на нуле.
Вдвоем друг другу поем. Громче звук, стук, звон. Музыка на весь район. В этой комнате вдвоем друг другу поем. Громче звук, стук, звон. Музыка на весь район. Танцы под фонарем. Музыка так орет. Скорость спать не дает. Мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем. Музыка так орет. Скорость спать не дает. Мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем. Музыка так орет. Скорость спать не дает. Мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем. Музыка так орет. Скорость спать не дает. Мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем. Музыка так орет. Скорость спать не дает. Мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем. Музыка так орет. Скорость спать не дает. Мы убитые вдвоем.
Танцы под фонарем. Музыка так орет. Скорость спать не дает. Мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем. Музыка так орет. Скорость спать не дает. Мы
Vous êtes toujours sur Radio Canu avec le Théâtre de la Camelle et je suis en compagnie de la compagnie Collapse qui viennent nous présenter leur création Maiden Inferno qui est un texte de Neda Nejlana. Et nous avons parlé un peu plus tôt dans l'émission de monologue et je vous invite donc et je vous propose de lire une partie de ces monologues.
Oui, tout à fait. Ben, on parlait tout à l'heure de la violence qui avait eu lieu sur cette place. Et la plupart des révolutionnaires ont également utilisé la violence pour se protéger, déjà. Et dans l'idée aussi de mettre en place une nouvelle forme de démocratie. Et justement, je trouvais intéressant qu'on puisse lire ce monologue de Anya, donc la personnage principale, qui se pose cette question en fait, de savoir qu'est-ce que c'est que de recourir à la violence quand on est jeune et de tous les dilemmes que cela peut provoquer.
Hier, je suis passée par hasard devant un magasin d'armes de chasse et la vitrine m'a attirée comme un aimant. Je suis entrée. Des armes à feu, des couteaux à cran d'arrêt et des poignards. Mais ce qui m'a le plus intéressé, ce sont les pistolets. Je les ai longtemps examinés, en particulier les petits, plus féminins. J'avais envie du contact froid de l'acier, de sentir l'élasticité du petit chien de fusil. C'était un désir tellement fort que je ne pouvais pas détourner le regard. Et ce n'était pas très cher. Je pouvais m'en procurer un avec ma bourse et mon petit boulot. Mais je ne savais pas ce qu'il fallait pour ça, quel permis, ni à quel point ces armes étaient dangereuses. Je me suis souvenu qu'une fois, à l'école, j'avais participé à une olympiade de tir et je me suis dit qu'il faudrait m'entraîner sur un stand. J'y ai pensé sérieusement. Vraiment. Une étudiante en littérature qui n'a encore jamais été avec un homme. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous envoies-tu de telles épreuves? Je ne veux pas qu'on me tue, qu'on tue mes proches. Mais est-ce que ça me sauvera? Est-ce que ça me rendra? Est-ce que ça me prendra ma liberté? Ou la vie? Je ne sais pas. Je veux juste me débarrasser de la peur, car cette peur, cet abominable serpent gluant qui s'est glissé dans mon cœur et empoisonne mon âme, c'est le pire. Si une arme pouvait emporter cette peur, je l'achèterais. Mais je ne suis pas certaine de cela. Je me suis abstenue, pour l'instant.
C'est un sentiment étrange, comme si j'étais dans le passé et l'avenir en même temps. Ces tentes, ces barricades, et même cette catapulte, ces incendies, ces chaudrons, cette fumée, ces tambours, ces divisions en ceinturies, ces chansons et cet humour représentant l'esprit de liberté et de confiance. Oui, c'est comme si quelque chose se libérait des profondeurs de la mémoire, résonner dans mon sang. Je suis chez moi, parmi les miens. Maïdan est la nouvelle Sitch, l'automaïdan sa cavalerie et les bâtiments ses forteresses. Chaque semaine se tient un conseil où il n'y a pas de dirigeant permanent et nous n'en avons pas besoin car nous ne croyons pas aux superstars. Aux super tsars. Nous sommes des cosaques libres d'esprit. Respectons-nous car nous en valons la peine. L'Ukraine par-dessus tout. Si quelqu'un m'avait dit encore à l'automne qu'il en serait ainsi, je ne l'aurais pas cru. Qui a besoin d'une Ukraine ruinée, oubliée de Dieu? Mais c'est comme ça. Elle n'est pas oubliée. L'histoire germe à partir des muscles sur nos os et fait vibrer notre sang. Peut-être que le nom de Yanouchari est apparu à juste titre, presque comme Janissaire. Oui. Nous avons des codes différents, des mercenaires sans racines, des voleurs nomades et de vrais défenseurs de la patrie. Les chevaliers de la liberté. En période de catastrophe, quelque chose s'est mis à renaître dans nos âmes, pour que le pays ne se transforme pas en un champ sauvage qu'on peut piller et nettoyer. Mais combien sont-ils ces autres, qui ne sont ni ukrainiens, ni russes, mais seulement anti-ukrainiens? Ceux qui sont prêts à détruire, à se vendre et à trahir. Ce virus cruel de l'impunité, cette ivresse des humiliations, des tortures et des meurtres se transmet trop vite. Le paradoxe, c'est que les masques imaginaires sont tombés, mais qu'ils se sont changés en d'autres masques. Notre sang a deux codes génétiques, et chacun doit choisir un côté de la barricade. pas seulement dans l'espace, en lui-même, où qu'il soit, dans n'importe quel coin du monde. C'est une guerre différente. C'est l'annonce d'un nouvel avenir, pour tous.
Merci, c'est donc des extraits de monologues du texte Maiden Inferno de Neda Nejnana.
Tout à fait, donc c'est-à-dire que les monologues, en fait, il y en a 6 dans le texte, ou 8. C'est un peu la colonne vertébrale hein, de ce texte. Donc, d'un point de vue formel, en fait, le reste de la pièce s'articule autour de cette colonne vertébrale. Et il y a notamment tout un passage qui est beaucoup plus dialogué, qui se situe sur la place, où les 7 personnages vont discuter les uns les autres. Alors, parmi les personnages, il y a le prêtre séminariste, il y a le vigile, il y a également le poète chanteur qui est là. Donc il y a les 2 personnages, Anya et Oreste. Il y a aussi médecin, enfin c'est pas une médecin, mais c'est
une
infirmière, voilà. Et le dernier personnage, c'est que j'ai oublié de nommer, c'est donc une journaliste voilà, qui D'accord. va suivre les événements.
Caractérisés par leur profession.
Oui, tout à fait, par en tout cas par leur profession. Enfin, le vigile, il n'est pas forcément vigile dans la vie, mais en tout cas, c'est ça qu'il invente en étant sur la place, et c'est cette occupation-là qui va donner sens à sa révolution. Quoi. Tout à fait. Donc, il y a une dimension aussi religieuse qui est assez présente, donc de par le séminariste. Et ça, moi, c'est des choses qui m'ont comment dire, en Ukraine, c'est assez présent, en fait, le poids de la religion. Il faut savoir que pendant toute la période communiste, pendant l'URSS, c'était interdit hein, de pratiquer le culte. Et après l'éclatement de l'URSS, c'est comme s'il y a de notre point de vue laïque, j'ai envie de dire, un excès de religion. Enfin, c'est pas du tout le même point de vue là-bas. Et c'est assez complexe parce que ça se divise entre plusieurs églises orthodoxes, entre gréco-catholiques, entre catholiques. Enfin, c'est des choses qui sont assez compliquées à appréhender pour nous. Et en tout cas, au travers du théâtre de marionnettes, j'ai souhaité rendre compte de cette dimension religieuse, puisque les marionnettes se construisent en référence à des figures iconiques, en fait, d'une certaine manière, sachant qu'il y a aussi eu cette volonté de dresser comme ça quelques personnages, quelques personnes qui ont fait cette révolution comme des héros de la nation, hein, aussi d'une certaine manière.
Et concrètement, ces marionnettes, ce sont des marionnettes qui ont été fabriquées en bois, elles ont quelle taille, comment, parce qu'il y a tellement de formes de marionnettes.
Oui,
on a envie de savoir.
Il y en a beaucoup. Alors, elles sont encore en cours de fabrication. Voilà, il faut savoir, parce que la première, c'est en septembre 2019. Donc, voilà, il y a des prototypes. Mais on part quand même sur des marionnettes de taille, on va dire quoi, une quarantaine, cinquantaine de centimètres, comme ça, qui s'inspirent d'un système qui s'appelle le système Obrazov. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des sortes de marionnettes marottes, on pourrait dire ça comme ça. Et la particularité, qui est une particularité de mon travail, c'est qu'elles sont aussi en papier. Et justement, la volonté de les rendre très légères, comme ça, parce que c'est un matériau, moi, que j'aime beaucoup, hein, le papier, donc qui est très léger. Et elles se rendent en contre-pied avec les éléments de la scénographie qui, eux, sont construits avec du fer à béton. Donc, voilà, quelque chose de beaucoup plus lourd pour l'occasion.
Pour un personnage vraiment fragile par rapport à une scénographie.
Voilà, donc, bah oui. Oui, c'est un peu ça qui est raconté. C'est assez rigolo pour les comédiens, parce que du coup, à la fois, ils manipulent des marionnettes légères et à la fois des barres de fer à béton très lourdes. Donc voilà, il y a aussi un rapport physique avec tous ces objets. Peut-être que tu vas nous en dire quelques mots, Amandine, toi qui as pu éprouver ça depuis le plateau.
Oui, en effet, ces fers à béton, on les manipule parce que l'espace est constamment modifié en fait par ces tiges-là. Et à des moments, on en vient à dresser des sortes de barricades avec ces fers à béton qui ont des grandeurs plus ou moins grandes, plus ou moins petites, qui ont chacune un poids différent. Et en effet, ça rentre complètement en contraste, parce qu'après, quand on prend la marionnette, on se dit « Waouh !» D'un coup, c'est léger, c'est très différent, mais c'est pour moi, c'est aussi la symbolique de quand on est sur une place et qu'on on est là avec un message et qu'en face, on a des forces armées qui nous rentrent dedans avec des vraies armes. Parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des tirs à balles réelles sur des manifestants. Et donc, ils se sont retrouvés, eux, à devoir s'armer avec les moyens du bord. Donc, les panneaux de signalisation deviennent des boucliers. On fabrique, un peu au Moyen-Âge, on en revient à ça, mais sa propre arme faite de briques et de broc pour pouvoir se défendre. Et du coup, ces barres, c'est pour nous aussi, ça symbolise ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut devenir quelque chose avec lequel on va frapper, avec lequel on peut être frappé aussi. Voilà, c'est assez intéressant ce contraste et de travailler avec ça. Et puis ces barres à fer à béton qui sont très salissantes aussi, avec ces marionnettes pour l'instant assez blanches. Bon, on n'a pas la forme définitive, c'est pas inintéressant. Et puis ça peut rappeler aussi la suie du feu, quoi. Il y a quelque chose un peu comme ça.
Oui, je me permets de présenter un nouveau partenaire qui est le musée de la Révolution de Maïdan à Kiev, qui nous aide et j'ai notamment...
Il y a déjà un musée de la Révolution.
Alors, oui, effectivement, oui, c'est pris très au sérieux tout ça. Alors, en fait, le musée n'existe pas encore, il va ouvrir dans les 2-3 prochaines années, mais pour l'instant, il y a déjà une équipe de 30 personnes, donc c'est déjà quelque chose, c'est un gros projet pour l'Ukraine. Et ce musée, en ce moment, fait une exposition à Arsenal. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la galerie principale d'art contemporain à Kiev. Et ils ont notamment entrepris de recenser tous les objets qui ont été créés pendant la Révolution. Pour la plupart, ce sont des objets d'art. Ça peut aussi être une barre de fer à béton transformée en arme. Hein, parce que ça, c'est j'ai pu en voir quelques-uns, ou des casques qui ont été peints, etc. Des boucliers avec beaucoup d'icônes religieuses peintes, tout ce type d'objets en fait. Et donc il y a en ce moment une exhibition, comment on dit ça en français, une exposition, voilà, à chaque fois une exposition qui a lieu en ce moment, et ils sont assez intéressés par nos marionnettes, parce que finalement ce sont aussi des objets qui ont été construits par rapport à Maïdan. Et dans la conception des marionnettes, toutes les questions qu'on s'est posées justement, c'est mais est-ce qu'on peut mettre un casque ou un faux gilet pare-balles, ou un gilet pare-balles qui a été fait avec des moyens du bord, est-ce qu'on peut les mettre pour comme costume sur nos marionnettes? Et on s'est aperçu que si on faisait ça, ça rentrait dans un discours que les gens allaient penser qu'on a habillé ça comme ça parce que c'est des marionnettes en fait, alors que c'est des choses qui ont réellement existé. Du coup, dans la scénographie, on s'est dit voilà, c'est ce qu'on va construire l'année prochaine, c'est ce type d'objets qui vont plutôt être à l'échelle des acteurs et non pas des marionnettes. Parce que déjà en soi, il raconte quelque chose. Et c'est vrai que ce sont de véritables objets d'art. Hein. C'est très étonnant. Ouais.
Parce qu'ils utilisaient des casques de chantier, par exemple, pour se protéger, quoi. Donc, ils mettaient des casques sur la tête, mais c'était des casques de chantier. Donc on imagine bien que face aux forces qu'il y a de l'autre côté, bon, ça faisait pas bien lourd dans la balance, quoi.
D'ailleurs, je pense qu'on en parle un moment dans le texte où on dit, on met des casques de chantier, mais du coup, c'est les vrais ouvriers qui se font arrêter parce qu'ils sont habillés comme les Maïdanistes, mais en fait, c'est des vrais ouvriers du bâtiment. Mais, enfin, voilà, c'est ces petites anecdotes.
Mais du coup, pour revenir sur la scénographie, elle nous permet de créer tour à tour et l'espace où vont évoluer les marionnettes, les scènes où elles vont être, c'est elles qui sont présentes. Elles vont nous permettre aussi de créer l'espace des réseaux sociaux et aussi l'espace des monologues. Donc c'est pour ça que c'est un décor qui bouge beaucoup et en permanence, avec des socles dans lesquels on peut enficher ces barres de fer à béton, mais on peut aussi les mettre en équilibre les unes avec les autres. Donc on a fait tout un travail aussi de recherche de comment les manipuler, comment on peut s'en servir, jusqu'où on peut aller avec cette matière-là, quoi. Voilà.
Oui. Et ça fait depuis combien de temps que vous travaillez du coup sur cette création-là ?
Alors, ça c'est toujours très compliqué à dire, mais disons de façon concrète, avec, on a eu une séance de répétition en septembre dernier, donc à l'Entrepont à Nice, voilà, où on a fait également une sortie de résidence à ce moment-là. Donc là, on a travaillé 3 semaines, donc il y avait une première semaine plutôt de travail sur les prototypes des marionnettes, une deuxième sur la scénographie, une troisième avec les comédiens. Et là, donc à Ramdam, à Sainte-Foy-les-Lyons, on a déjà eu une séance de 10 jours, à peu près une semaine, 10 jours, il y a le mois dernier. Et là, on repart la semaine prochaine pour une dizaine de jours. Voilà. Donc cette année, nous sommes encore sur de l'expérimentation, sur du travail en laboratoire, parce que moi, j'aime bien cette façon de travailler, qui est aussi une façon ukrainienne de travailler. Et l'année prochaine, en 2019, là, on a encore d'autres temps de répétition, mais à ce moment-là, on saura moins sur des hypothèses et plus sur le spectacle tel qu'il va être joué, quoi, plus sur des séances de répétition pure et dure. Donc voilà pour ce qui est des répétitions au plateau, mais sinon le projet, eh bien moi j'avais fait une mise en espace au Théâtre du Point du Jour, il doit y avoir 2 ans, je pense, dans le cadre d'un festival étranger, là, organisé par la compagnie Scène, Théâtre et Cinéma, qui a été le vernissage de la pièce, parce qu'elle venait juste d'être traduite, éditée le jour même, et donc c'est à peu près à ce moment-là que le projet s'est lancé, quoi. Tout à fait.
Moi, j'ai juste une question, Clément, parce que du coup, il faut bien rappeler que cette pièce, elle n'est pas écrite pour la marionnette.
Non.
Et du coup, pourquoi les marionnettes et pourquoi elles interviennent uniquement sur les scènes de dialogue pendant sur le Maïdan, quoi. Là, au moment où on est sur le Maïdan, quoi.
Oui, bah alors effectivement, bon, moi je travaille pas, enfin je suis marionnettiste, voilà, je fais une école de marionnettiste là, à Charleville, là, tout ça. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est les textes, c'est la dramaturgie, c'est ça. Donc si j'utilise des marionnettes, tant mieux. Si j'en utilise pas, bon, bah voilà, c'est pas non plus très grave pour moi. Bon, il se fait que j'en utilise toujours, donc rassurez-vous. Donc c'est des choix dramaturgiques après pour moi. Effectivement, donc il faut trouver un peu à quel moment ça va être le plus juste, parce qu'il faut quand même laisser l'écoute du texte qui est important. Donc dans mes premières hypothèses, j'étais parti complètement sur l'inverse à savoir qu'on allait travailler avec cet acteur et puis des marionnettes qui allaient représenter les paroles des réseaux sociaux, donc de façon un peu neutre comme ça, plus les monologues, parce que c'est un espace entre vie et mort, parce que Anya Orest, ils se retrouvent mais on sait pas très bien s'ils sont vivants, s'ils sont morts, enfin voilà, bon bref. Et du coup, il a fallu faire des choix à un moment, et il m'a paru que le plus simple, le plus pertinent, le plus simple pour le public aussi, pour qu'il puisse suivre cette évolution, était de représenter chacun de des personnages par des marionnettes, aussi parce que ça les mettait dans une façon, ça les, d'une certaine manière, ça leur rendait hommage en les rendant à la fois impersonnels et à la fois en leur mettant sur une figure de héroïque, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, les choix se sont vraiment faits à ce moment-là. Après aussi, en vous regardant vous travailler, hein, en voyant comment vous vous emparez, parce qu'il y a quand même 3 comédiens au plateau, hein, pour 7 personnages, comment est-ce que vous vous emparez de ces marionnettes, et voilà. Donc il y a plusieurs options. Soit on peut venir voir Maïdan Inferno en se disant je viens voir un spectacle de marionnettes, ce en quoi on peut peut-être être, je sais pas, soit très content, soit un peu déçu, après ça dépend des affinités, ou se dire je vais voir un spectacle qui parle de la révolution ukrainienne, et je pense que c'est surtout ça qui est pour moi le plus important, c'est le fond, en fait, voilà. La forme a son importance également, mais c'est pas ça qui est le principal dans mon travail, quoi. Mais je dois dire que j'ai quand même beaucoup de plaisir à construire les marionnettes, à les sculpter, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, et voilà, donc c'est aussi tout un plaisir pour moi de mettre en avant le théâtre de marionnettes, mais voilà, après je ne sais pas si on peut dire que c'est un spectacle de théâtre ou un spectacle spectacle de théâtre avec des marionnettes ou un spectacle de théâtre de marionnettes. Enfin bon, ça c'est des questions pour moi et je laisse à d'autres le soin de les poser et d'y répondre.
Vous êtes dans l'art total comme tu l'as dit tout à l'heure.
Eh bien, oui. Enfin, c'est vrai que moi c'est des périodes qui m'inspirent beaucoup, celle des années 20 et celle de cette recherche, effectivement. Aussi des arts de la poésie, parce que l'année dernière, j'ai fait venir des jeunes poètes ukrainiens à Lyon, par exemple. Et ça, c'était vraiment très intéressant de pouvoir entendre ces textes de cette jeune poésie qui a été écrite après les événements de Maïdan par des jeunes personnes qui sont devenues adultes à ce moment-là. Cette poésie qu'on a traduite, enfin, qui a été traduite depuis l'ukrainien jusqu'en français, donc par les poètes eux-mêmes, par l'équipe de la compagnie Collapse aussi. Enfin, voilà. Et ça, oui, ça participe à ce mouvement d'art total, en tout cas, d'intérêt pour plusieurs disciplines artistiques, quoi. Et quand je suis à Kiev, je suis aussi très étonné de la place qu'ont les jeunes artistes, notamment dans l'art contemporain. Enfin, je parlais de cette galerie Arsenal, la galerie principale. C'est pas rare de voir des expositions de jeunes de moins de 25 ans hein, qui sont promus à ce moment-là.
Et même le public, hein, parce que quand on a fait une exposition là-bas, moi j'étais assez étonnée de voir beaucoup, beaucoup de jeunes autour de la vingtaine d'années au musée, alors que quand on va à Lyon au musée d'art contemporain, c'est pas toujours le cas, quoi. C'est assez étonnant, quoi.
Il y a vraiment une soif de culture, effectivement. Oui. Effectivement. Et je parlais encore de l'opéra, par exemple. Bon, à Lyon, c'est quand même assez cher. Enfin, c'est une certaine population qui y va. En Ukraine, non, c'est tout à fait abordable. Et je veux dire, tout le...
Voilà. Ils y vont en famille.
Et ils y vont en famille.
C'est très surprenant de voir des enfants avec leurs parents. Enfin, c'est vraiment une sortie familiale, quoi.
Quelle que soit la condition sociale, quoi.
Peut-être avant de continuer sur quel projet s'insère Maïdan Inferno, un projet plus global sur l'Ukraine, peut-être lire un autre extrait des monologues.
Oui, ça c'est une bonne idée. Alors, je propose, de toute façon les monologues sont toujours entre Anya et Orest, donc la séquence 11.
En fait, je ne peux pas vraiment dire de quelle nationalité je suis. Si on s'en réfère au nom, tout est mélangé, les Ukrainiens, les Russes, les Allemands et même, semble-t-il, les Roms. Mais je suis née en Ukraine, c'est ma terre natale et j'ai l'impression que la langue, ce n'est pas simplement juste comme ça, c'est le code génétique de la terre, du peuple. Une fois, à une exposition sur la culture de Tripilia, j'ai vu une poterie avec un motif exactement semblable à ceux que faisait ma grand-mère. La poterie avait 5000 ans. Je ne sais pas ce que signifiaient ces signes, mais il est très important que nous conservions ce qui nous unit. Peut-être que c'est comme ça aussi pour la langue. C'est comme si tu pouvais entendre ce que te disent tes ancêtres. Et c'est aussi une sorte de station de radio divine. En Ukraine, elle est en ukrainien, parce que c'est une station locale. Alors qu'en russe, elle vient de plus loin. C'est pour ça que tu l'entends de manière vague et bruitée. Maintenant, on parle de bilingue. C'est à la mode. En effet, nous le sommes presque tous. D'un côté, c'est bien. C'est comme un dialogue interne de la conscience, la compréhension de l'altérité. Mais il y a aussi autre chose. Deux langues entreprennent une guerre de suprématie pour la manière de penser, pour l'âme, le cœur, les enfants. Car il faut choisir en quelle langue parler à son enfant. Et Dieu, en quelle langue lui parler? Car cette guerre est inachevée. La bataille dure depuis des siècles. J'ai lu l'histoire et j'ai pleuré. Combien ont été arrêtés, torturés, assassinés pour que cette terre reste ukrainienne. 134 interdictions de notre langue en 4 siècles. Si tu choisis le russe, ça signifie que ces sacrifices ont été vains et que les envahisseurs ont vaincu.
Habituellement, ceux qui s'affrontent le plus sont les peuples voisins. C'est la même chose avec les langues. Il aurait même encore plus facile d'entrer dans la bataille. Lorsque dans la mélange entre des langues éloignées, il naît une langue tierce. Alors que la guerre entre des langues proches conduit souvent à l'anéantissement de la plus faible. Mais si tes parents ont choisi pour toi, alors ça peut être ou comme ci ou comme ça. C'est la mémoire génétique qui peut vaincre, en dépit de la langue étrangère. Je choisis la langue de mes ancêtres, bien qu'elle ait été outragée, parce que c'est injuste. Mais le plus souvent, c'est le contraire. le choix du plus fort. C'est plus facile, ça ne demande pas d'effort. Si je parle russe, alors je suis un russe, un gagnant. Puis, une autre guerre interne se développe. Je deviens anti-ukrainien, je hais tout ce qui est ukrainien. Je peux aller tuer des Ukrainiens parce qu'ils sont différents, ils parlent ukrainien, ce sont des nationalistes. Mais mépriser les autres langues, c'est ça le nationalisme. Et aussi une paresse fondamentale. Une autre langue, ça demande du travail, des efforts. Alors que se battre contre les autres, c'est plus facile que de faire un travail pour soi. Et maintenant, c'est la guerre, dans les esprits, dans les âmes, sur les écrans et dans les rues. Une guerre létale. Elle commence dans le cerveau, avec les mots pour armes.
Merci. Alors, il nous reste peu de temps, donc je vais vous demander de rapidement nous décrire, enfin nous raconter pourquoi ce projet autour de l'Ukraine, c'est un projet du coup plus global de la compagnie Collapse.
Oui. À force de voyager, moi au sein de la compagnie, j'ai pu travailler dans une quinzaine de pays, donc. Et l'Ukraine, c'est là où je mets un focus en ce moment, sans doute parce que je suis d'origine ukrainienne. Maintenant, vous savez tout, donc issu de l'immigration ici en Auvergne, en Rhône-Alpes. Ukrainienne et polonaise. Et c'est vrai que ça m'intéressait de mieux connaître ce qui se passe là-bas. Hein. Donc à partir de la révolution de 2014, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit « Ouh là là, il se passe quand même des choses, il faut qu'on puisse en parler ». Donc j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager là-bas en Ukraine. Je ne sais pas combien de voyages, 6, 7, 8 peut-être, je ne sais pas bien. De voir beaucoup d'endroits. J'ai fait une tournée là, d'un spectacle jeune public. Enfin, bon. Et finalement, il y a plusieurs projets qui se mettent en place. Donc, je vous ai parlé de ces échanges avec des jeunes poètes ukrainiens qu'on a fait venir à Paris, à Lyon l'année dernière. Et pour l'année prochaine, donc, je suis également en lien avec, donc, dans la ville de Mariupol, Amandine a parlé, avec le théâtre de Donetsk. Donc, Donetsk est dans le Donbass, c'est-à-dire dans la zone de guerre. Amandine parlait d'un conflit, mais c'est vraiment une guerre. Hein. Et Mariupol, effectivement, est juste en périphérie hein, de cette zone. Et donc, le théâtre de Donetsk m'a demandé de mettre en scène un spectacle sur la guerre. Voilà. Donc, on devrait le jouer d'ici mars prochain, donc ça va aller très vite. Parce que les temps de production en Ukraine sont beaucoup plus courts que les temps de production en France. Donc, finalement, le spectacle d'après va être joué avant, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'y suis retourné hein, depuis là-bas. J'ai refait les 20 heures de train là, depuis Kiev et Mariupol, c'est fascinant. Et c'est vrai que c'est des théâtres où il y a 200 permanents. Enfin, c'est des très grosses équipes. Voilà. Et donc, ça fait partie des autres projets, effectivement, de travailler un peu sur ce qui s'est passé après, c'est-à-dire cette guerre. Alors, je ne vais pas parler directement de la guerre en Ukraine, parce que bon, c'est assez complexe, mais c'est un montage de différents auteurs qui sont traduits en ukrainien, ou qui sont en cours de traduction, donc par Neda Nejdana, hein, la dramaturge avec qui je travaille, qui est aussi la dramaturge de ce spectacle, même si ce n'est pas ses textes à elle qui vont être montés. Donc il y aura du Matej Wiśniewski, il y aura du Sonia Ristich et du Edouard Bond en marionnette, parce que donc, c'est un théâtre qui n'a pas l'habitude d'accueillir des spectacles de marionnettes, donc c'est aussi un projet intéressant, voilà, qui se fait en coopération. Après, parmi les autres projets là-bas en Ukraine, il y a un tas de marionnettes qui m'a demandé, donc ce coup-ci ça sera vraiment dans un théâtre de marionnettes, ça m'arrive quand même de temps en temps, où là on monte, c'est plutôt une réflexion sur les spectacles jeunes publics, aussi adultes, et après avoir beaucoup beaucoup hésité on s'est mis d'accord sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry, où je pense que ça va être une belle aventure. Donc voilà, après j'ai aussi pour envie, moi, de continuer de faire traduire ces textes théoriques de Lise Courbas, dont je parlais tout à l'heure là, de ce metteur en scène des années 20, parce que ça, il est très peu connu ici. Et voilà, donc oui, c'est tout un travail autour de la culture ukrainienne, et c'est aussi de faire connaître l'Ukraine par le biais de la culture. Juste un petit mot, si j'ai choisi ces monologues en lecture, c'est parce qu'il est question de la langue. Et la première question qu'on m'a posée au Théâtre de Donetsk, c'est de savoir si on allait jouer le spectacle en ukrainien ou en russe, parce que forcément ils sont bilingues. Et c'est les questions principales qu'on se pose que se pose un metteur en scène, parce que voilà, ça fait partie. Les langues ne sont pas en opposition l'une à l'autre, hein, mais effectivement, c'est des questions qu'on se pose en théâtre là-bas, quoi.
Ouais, mais même dans le quotidien. Bah, moi, je ne savais jamais si je disais merci en russe ou en ukrainien, quoi.
Oui, bah après à Kiev, une conversation commence en ukrainien, finit en russe. Enfin, je veux dire, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, mais à un moment, bon, il faut. Voilà. Donc, tout à fait.
On peut peut-être rappeler les dates, du coup, concernant le projet Maïdan et Inferno. Vous allez donc être en sortie de résidence à Ramdam. Rappelez-moi la date.
Alors, le 27 novembre, et vous pouvez venir à 20h. Donc, ce n'est pas le spectacle fini, c'est un chantier encore. Et vous pouvez discuter avec l'équipe et nous poser toutes les questions que vous voulez nous poser.
On peut aussi retrouver toutes les informations de la compagnie sur votre site internet.
Le site internet, alors, s'appelle Collapsus, collapsus.eu. Voilà.
Et sur Facebook aussi.
Et sur Facebook aussi, Compagnie Collapse, tout à fait.
Et du coup, si je peux me permettre de nommer mes camarades de jeu.
Oui, tout à fait.
Il y a Anthony Liebo et Simon Joanneau qui sont avec moi sur scène pour interpréter ces 7 personnages. Et
Julien Chaul à la scénographie.
Voilà, qui est circassien également et qui joue très bientôt à Lyon, à l'école du cirque, c'est ça?
Oui,
le
donc...
À Bénival.
Ça doit être le 24,
c'est le
samedi, 24 novembre.
Voilà, exactement. Donc ça va être l'occasion d'aller voir son spectacle d'ailleurs. Ça peut être sympa.
Tout à fait. Et moi j'en profite pour juste rappeler qu'il y a en ce moment les journées de Lyon des auteurs de théâtre. Et notamment, vous pouvez rencontrer l'éditeur demain de Maïdan Inferno aux éditions L'Espace d'un Instant. Vous procurez le livre aussi à cette occasion. Ou venir à Ramdam, nous avons également les livres à disposition.
Et dernière info d'agenda, il y aura une soirée de lancement du projet Extraordinarias, qui est un projet porté par Valeria Cardulo. Ce sera au Nidpool, qui se trouve au 17 rue Royale, ce lundi 19, de 19h à 23h, avec notamment une conteuse cubaine, et qui sera accompagnée d'un guitariste. Et la conteuse s'appelle Mercedes Alfonso. On va finir l'émission avec un dernier tube ukrainien. Et juste avant, Amandine, je te laisse le mot.
Si juste je peux me permettre, parce que pour avoir lu la pièce, travaillé dessus, et je pense que si vous avez l'occasion de vous procurer le livre ou de venir déjà voir cette étape de travail, je pense que c'est très intéressant pour découvrir aussi et connaître un peu plus cette histoire sur laquelle j'ai pu entendre beaucoup d'a priori parce que l'information qui nous est parvenue, nous, est beaucoup orientée par ce qu'appelle Neda la propagande russe. Et je pense que c'est une histoire et un pays à découvrir. Donc je vous invite vraiment à soit lire le bouquin, soit évidemment venir le 27 novembre, parce que voilà, si vous avez des questions, on sera là pour essayer d'y répondre ensemble, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire.
Et merci beaucoup Amandine Vincent, et Clément Peredjatko de la compagnie Collapse. Et nous terminons l'émission avec un tube ukrainien. Allons-y.